Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir à bord de l'émission Ensemble, l'hebdo de Radio Rancière qui vous permet de découvrir toute la richesse du tissu associatif aurélien. Aujourd'hui, deux sujets au menu. En seconde partie d'émission, nous évoquerons les dons d'organes. Mais à présent, nous allons au foyer d'accueil Chartrain pour l'ouverture d'un nouveau service qui nous est présenté par le directeur de l'établissement. Le foyer d'accueil Chartrain vient d'ouvrir un nouveau service à vocation, dirons-nous, médico-sociale. Il s'agit de permettre aux personnes sans domicile fixe qui sortent d'une hospitalisation d'accéder à des soins. Alors, avant d'évoquer cette création, rappelez-nous Thierry Martinez, l'émission du FAC, dont je précise, vous êtes le directeur.
Donc, l'émission du FAC. Alors, le FAC, une association qui a fêté ses 30 ans il y a un an maintenant. Une association qui se veut, comme objet social, pouvoir lutter contre toutes les formes d'exclusion et d'aider et d'accompagner les personnes à s'insérer, à se réinsérer, à s'inclure dans la société. Voilà, avec tant sur l'aspect insertion, on va dire, sociale que l'insertion professionnelle.
Alors, 65 places, je crois, sont gérées, c'est ça, à l'année par le FAC dans le cadre de l'hébergement d'urgence. C'est quand même un chiffre assez impressionnant pour une ville de cette taille. 65 personnes, c'est ça, qui n'ont pas de domicile ici dans l'agglomération chartraine.
Alors, est-ce qu'il y a 65 personnes sans domicile fixe dans l'agglomération Chartraine? Je pense qu'il y en a un peu plus, hein. Tout de même, voilà. Mais oui, nous avons une capacité, en tout cas d'accueil en place pérenne, de 65 lits, on va dire, 65 places. Sachant que sur le département, nous ne sommes pas les seuls opérateurs non plus, hein, et que à l'heure actuelle, on est sur 123 places, je crois, à l'année et en période hivernale, des ouvertures supplémentaires pour pouvoir répondre aux besoins qui sont plus prégnants sur ces périodes-là.
Qui sont les personnes que vous accueillez? J'ai vu qu'il y avait un espace familial, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui se retrouvent comme ça à la rue, hommes, femmes, enfants, que vous accueillez?
Oui, la personne sans domicile, elle n'est pas particulièrement le stéréotype du SDF, homme seul. Certes, il y en a, mais aujourd'hui, tout le monde peut se retrouver à la rue, hein, expulsé de son logement, des drames, des ruptures, des choses comme ça. Et effectivement, nous avons aussi bien une population d'hommes que de familles, de femmes, d'enfants, et on se doit de mettre à l'abri tout le monde et de faire cohabiter un petit peu tout le monde.
Est-ce qu'on va dire que la population a changé en quelques années? Je me souviens, moi, d'être arrivé ici il y a pratiquement 20 ans et il y avait davantage d'hommes seuls, on va dire. Et aujourd'hui, ça a quand même beaucoup changé, je trouve.
Alors, effectivement, hein, moi, je suis pas dans le secteur depuis 20 ans. Enfin, en tout cas, dans le secteur social, oui, mais pas sur ce type de structure. Oui, on avait en tout cas l'image du bon SDF qu'on pouvait appeler clochard, qu'on pouvait appeler, enfin, partout, toutes ces appellations-là, qui étaient plutôt en itinérance ou voire voilà. Hein. Aujourd'hui, on a une population de familles de plus en plus importante. On retrouve aussi des jeunes. Hein, des jeunes qui ont pu être pris en charge à un moment, soit par l'aide sociale, ou alors dans des familles et arrivés à la majorité, ça clash un peu et qui partent de chez les parents et qui se retrouvent, voilà, sans domicile, à la rue. Donc on a vraiment une population très 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 hétérogène, très 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 hétéroclite, et avec aussi une population assez nouvelle, c'est la population des demandeurs d'asile aussi, ou des migrants, hein, qui n'ont pas toujours tout de suite une place dans une autre structure adaptée, ou qui sont en sortir de dispositifs ou en mouvement sur le territoire et qui peuvent aussi faire appel au 115. Donc voilà, c'est vraiment très très vaste.
Alors pour s'occuper de tous ces gens, eh bien 60 salariés, donc on peut dire que le FAC c'est une grosse boîte avec un budget global de plus de 5 millions d'euros. Outre l'hébergement d'urgence, vous inscrivez les gens que vous accueillez dans un processus d'insertion ou de réinsertion. Il y a notamment un atelier dont la Radio Rancière a profité il y a quelques années. Tout ça est ma foi bien installé, quoi.
Oui, effectivement, le foyer d'accueil Chartrain gère aussi ce que l'on appelle appelle des ateliers chantiers d'insertion, hein, qui sont des activités support qui permettent à des personnes de pouvoir être en situation salariée, puisqu'ils sont salariés de l'association, mais de bénéficier dans un dispositif particulier d'un accompagnement avec pouvoir se tester sur nos ateliers. Aujourd'hui, on a un atelier espace vert comme activité support. On a également du second œuvre du bâtiment. Nous avions, et c'est de ça dont vous parliez, une menuiserie que l'on a été contraint d'arrêter, hein, pour des questions de normes et de sécurité sur cet atelier, et avec des investissements trop coûteux par rapport à ce que l'activité, parce que ça reste quand même des activités sur lesquelles il faut un petit peu de bénéfices. Voilà, même si c'est des structures aidées par l'État, voilà, et un redéploiement sur nos activités, ce qu'on appelle habitat et logistique, multiservices, et l'hygiène et l'entretien des bâtiments, puisqu'on est quand même une grosse structure, avec une mission très très forte en question de sur les questions d'hébergement, soit sur nos sites, soit dans des appartements en diffus, et qu'on se doit d'entretenir au maximum. Donc autant trouver les moyens en interne pour apporter de l'activité support à ces personnes en insertion qui sont heureuses, et actuellement on est en pleine rénovation. Vous parliez
des camions.
Mais il y a surtout une rénovation des bâtiments qui est en cours, puisque vous parliez de l'arrivée des Lialt Soins Santé, où effectivement le choix a été fait de profiter de l'arrivée de cette nouvelle structure pour repenser la manière d'accueillir les personnes sur le site de Chartres. Donc ces travaux, c'est en partie avec des entreprises, mais c'est aussi nos ateliers qui cohabitent avec ces entreprises et qui rénovent les bâtiments.
Alors parlons de ce LHSS, c'est donc les lits halte soins santé. Ce service est finalement le fruit d'un appel à projet qui a été lancé par l'ARS et auquel vous avez répondu.
Tout à fait. Les lits halte soins santé sont des structures qui existent déjà depuis un moment. Le FAC avait déjà eu par le passé des velléités de se proposer pour ce type de structure, hein, puisque ça correspond à un réel besoin identifié depuis longtemps. Malheureusement, le département d'Eure-et-Loire en était pourvu. Il y en avait sur les autres départements de la région, mais il n'y en avait pas en Eure-et-Loire. Le projet est enfin sorti. Nous avons candidaté à cet appel à projet et avons été retenus par l'ARS pour 5 lits halte soins santé, donc une petite structure à vocation départementale et qui a ouvert il y a 15 jours, 3 semaines maintenant.
Alors, bah, je vais faire mon Michel Chevalet, comment ça marche?
Comment ça marche? Alors, je rappelle un peu l'idée du dispositif, c'est que c'est une structure qui s'adresse à des personnes sans domicile et qui auraient besoin de soins à domicile. C'est-à-dire ce que tout à chacun, quand on a un domicile, vous le disiez tout à l'heure, soit en sortant d'hospitalisation, par exemple, où on a encore des soins à faire, mais qui ne peuvent pas se faire ailleurs qu'à domicile, quoi. Enfin, y a des questions d'hygiène, de sécurité, de choses comme ça. Ou pour des personnes qui n'auraient pas besoin d'une hospitalisation s'ils avaient un domicile, parce que le médecin pourrait prescrire des soins, infirmiers et compagnie. Voilà. Donc le leitmotiv, il est là, c'est que ça s'adresse à ces personnes sans domicile qui à un moment ont besoin de soins. C'est l'occasion de les accueillir en hébergement, de mettre en place et de répondre à ce projet médical, hein, puisque c'est avant tout une orientation, une admission qui est faite sur le volet médical, mais c'est une prise en charge globale, sociale, l'idée étant de pouvoir régler aussi les éléments autour de la situation sociale qui permettraient une sortie autre qu'à la rue, oui, éventuellement. Voilà.
C'est le remettre debout, mais dans les deux sens, quoi, finalement. Alors, vous avez embauché donc une équipe médicale avec médecin, infirmière et aide-soignante, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Sur la partie médicale, nous avons donc un médecin, alors qui est là une demi-journée par semaine, hein, un médecin denrées rares, mais en tout cas, nous avons trouvé quelqu'un qui venait de prendre sa retraite qui était de Chartres, hein, médecin généraliste de Chartres, et qui avait envie de s'engager dans une cause sociale, et on lui a dit que le bénévolat c'était bien, mais qu'on avait peut-être besoin aussi d'un médecin, donc voilà, il a accepté, et donc c'est le docteur Collot. Donc c'est lui qui est responsable de la partie, on va dire, médicale du projet de soins, qui prononce les admissions sur cet aspect-là, et enfin, en tout cas qui formule son avis. Et ensuite, nous avons recruté une infirmière qui est là à temps partiel, 4 demi-journées par semaine, hein, qui va être là pour faire quelques soins, mais qui va être surtout là à la coordination. hein, de ce projet de soins en fonction des patients que l'on accueille, et une aide-soignante qui, elle, est là 5 jours par semaine à temps complet, qui est là sur le collectif, sur ce petit collectif, pour accompagner les résidents.
Et vous avez passé également une convention de partenariat avec un cabinet au cas où il y aurait de l'absentéisme.
Alors c'est pas au cas où il y aurait que de l'absentéisme, c'est-à-dire que sur une petite structure comme celle-ci, on a besoin de pouvoir assurer les soins 24 heures sur 24 et tout type de soins. C'est pas une structure soignante, du sanitaire, c'est bien du médico-social. Donc on a passé des conventions aussi bien avec un cabinet infirmier libéral pour assurer les soins quand il y en a besoin, au-delà des disponibilités des capacités de notre infirmière, mais aussi avec une pharmacie pour la délivrance des médicaments, mais également avec l'hôpital de Chartres pour coordonner les projets de soins et les accès aux plateaux techniques, par exemple, pour fluidifier, hein, parce que c'est aussi ça un peu l'idée, avec l'hôpital Henriet, avec l'hospitalisation à domicile, l'HAD, puisque là c'est pareil, hein, on peut être un peu à cheval entre les deux. Plutôt qu'une pathologie qui évoluerait pas très très bien de retourner à l'hôpital, on peut aussi, comme on le ferait chez soi, avoir de l'hospitalisation à domicile, si c'est pas le prétexte pour rentrer. En tout cas, pour éviter une réhospitalisation, ça peut être aussi envisagé. Enfin voilà, et demain ça va être avec des kinés, avec au fur et à mesure que les patients arriveront et en fonction de leurs besoins, on mettra en place des conventions de coopération avec le secteur sanitaire.
J'imagine que la durée du séjour est limitée, bien évidemment, non ?
Oui, oui. C'est le principe, hein, on n'est pas sur des maladies, déjà, on n'est pas sur de la chronicité, sur des maladies chroniques. On est sur des choses plus particulières à un moment donné, en termes de soins. Et les textes disent qu'au maximum, c'est 2 mois, renouvelable éventuellement. Voilà. L'idée étant d'accompagner le patient tant sur l'aspect médical que sur l'aspect social le plus rapidement possible pour trouver d'autres solutions et fluidifier aussi ce dispositif, parce que 5 lits sur le département, ça peut être rapidement embolisé aussi. Là, l'avenir nous le dira, on est en train de démarrer. Aujourd'hui, on a 2 personnes présentes sur le site. Il faut se familiariser aussi avec ce dispositif. Mais voilà.
Ce n'est pas réservé aux personnes que vous accueillez, je veux dire.
Ah non, 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 c'est un dispositif départemental. C'est pas un dispositif spécifique pour les résidents du FAC. Non, non, c'est bien un dispositif départemental ouvert à tout le monde. D'ailleurs, le premier monsieur qui est arrivé était en sortie d'hospitalisation de l'hôpital de Dreux, avec un besoin de soins et de mobilité très réduite. Pour autant, il y a des possibilités qui se dessinaient avant son hospitalisation sur de l'hébergement un peu plus pérenne. Voilà, aujourd'hui il a été orienté chez nous, il va être là le temps qu'il faut pour se remettre d'aplomb, et puis le parcours continuera pour lui.
Merci beaucoup, c'était Thierry Martinez, directeur du foyer d'accueil Chartrain. Deuxième sujet de cette édition Chartrain de l'émission Ensemble, eh bien on va parler du don d'organes en compagnie de Didier Lagrange, qui est président de l'association France Adote 28. France Adote 28, eh bien c'est une association qui s'occupe de promouvoir le don d'organes. Bonjour Monsieur Lagrange.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alors moi je me posais une question, j'ai failli dire une bêtise tout à l'heure, je vous interrogeais en préparant l'émission sur le scandale des corps abandonnés à Paris, à l'hôpital, et puis vous m'avez dit, oh là, attention, le don d'organes, c'est pas le donner son corps à la science. Donc dites-nous très exactement ce qu'est le don d'organes.
Oui, voilà, il faut surtout pas faire l'amalgame entre le don d'organes et le don du corps à la science. Le don du corps à la science, ce sont des personnes qui ont choisi de donner leur corps après leur décès, de façon à faire progresser la science, mais le corps est donc dans les mains de la médecine, et le corps n'est d'ailleurs pas restitué à la famille. Par contre, le don d'organes, il s'agit d'une partie du corps, des organes, comme son nom l'indique, où là, effectivement, le corps est restitué et remis complètement normal, sans aucune apparition de quoi que ce soit. Et il s'agit de prélèvements de quelques organes.
Ouais. C'est extraordinaire ce que la science arrive à faire aujourd'hui, parce que le don d'organes, ça date de quand en fait ? On commence à greffer les premières greffes.
Alors la première greffe du cœur a eu lieu donc grâce au professeur Bernard en Afrique du Sud en 1967.
C'est pas vieux.
Et c'est pas vieux tout à fait. Et en France, le professeur Cabrol. Ouais. A pris le relais avec la première greffe du cœur en 1968.
Ouais. Et ça marche. Vous en êtes la preuve vivante, Didier Lagrange, parce que si vous êtes président de l'association ADOT 28, c'est pas par hasard.
Non, tout à fait, c'est pas par hasard. J'ai eu la chance, suite à une maladie depuis la naissance, où effectivement, à 60 ans, la maladie s'est un petit peu aggravée et je suis parti à l'hôpital pour enlever au départ des nodules cancéreux sur le foie. Et en fait, la maladie avait tellement progressé que les chirurgiens et professeurs se sont rendus compte qu'il fallait absolument prévoir une transplantation. Donc recours à un greffon pour pouvoir survivre. Et il faut avoir beaucoup de chance, évidemment, pour trouver le bon organe au moment où vous en avez besoin. Et j'ai eu cette chance-là. Donc tous les jours, je remercie mon donneur, évidemment, et la science aussi, ainsi que la médecine, car dans les hôpitaux, moi j'étais à Tours, j'ai bénéficié d'une richesse d'échanges et d'accompagnement exceptionnel.
C'est une seconde vie aujourd'hui ?
Alors, c'est une seconde vie, oui, un petit peu, mais moi, je n'attendais pas la greffe au départ. Quand je suis rentré à l'hôpital, c'était pour 10 jours et je repartais. Bon, ça a été beaucoup plus compliqué que cela, mais j'avais une vie pratiquement normale avant. Mais c'est vrai que sans cette greffe, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, grâce à ce donneur, que je ne connais pas, évidemment, puisque le don d'organes
est
toujours anonyme, et il faut qu'il le reste, d'ailleurs. On vit bien mieux sans savoir à qui nous a donné cet organe. On ne se pose pas de questions sur justement cette personne qui, dans un grand élan de générosité et de solidarité, a voulu donner ses organes. Et c'est très bien ainsi. Moi, je suis tout à fait favorable à cette situation.
Donc, ça veut dire que tous les foies sont interchangeables ou est-ce qu'il y a des critères, des conditions particulières ?
Alors, évidemment, il faut une compatibilité. Ouais. Alors, comment ça se passe, si vous voulez, quand le chirurgien qui vous suit se rend compte qu'effectivement, il va falloir procéder à une greffe, eh bien, vous êtes inscrit sur un registre national. Alors, attention, je vais pas reprendre ce mot-là. Vous êtes inscrit auprès de l'agence de la biomédecine, et c'est-à-dire que à l'arrivée d'organes qui vont être disponibles, eh bien, l'agence de la biomédecine fait une proposition au chirurgien du receveur, savoir si l'organe intéresse ce professeur pour le receveur. Et donc ça se passe. Mais alors, par contre, il faut vraiment avoir la chance qu'au moment où vous en avez besoin, vous avez le foie qui arrive avec la compatibilité. Donc c'est pour ça que je parle toujours de chance, parce que malheureusement, il y a quand même aujourd'hui en France 600 personnes qui décèdent par manque d'organes.
Ouais.
Et 24 000 personnes qui attendent un organe.
Faute d'organes compatibles.
Faute d'organes compatibles et faute de donneurs surtout.
Ouais. Et faute de donneurs. Alors là. C'est le cœur du problème, on y est cette fois.
Exactement.
Faute de donneurs, ça veut dire que peu de gens sont en mesure ou en capacité ou veulent donner leur organe.
Alors c'est un petit peu plus compliqué que cela. Dans les années 70, bon, la greffe d'organes n'était pas très développée. Par contre, il y avait, j'allais dire, malheureusement, un potentiel de donneurs, puisque vous savez que le nombre d'accidents de circulation était... Le nombre de morts était énorme à ce moment-là. Il y a plus de 13 000 morts chaque année. Aujourd'hui, la prévention routière a beaucoup œuvré, ainsi que les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, c'est 3 000, un petit peu plus de 3 000 morts, 3 500 morts liés à des accidents. Et qui amène un traumatisme entraînant le décès. Donc le problème, il est là, parce que sur les 3 500 personnes qui sont en mort encéphalique, les donneurs sont forcément en mort encéphalique, eh bien, sur ces 3 500 personnes, seules 1 700 organes sont prélevés. Et quand vous savez qu'il y a 24 000 personnes en attente, donc il y a quand même un déficit très, très important.
En Eure-et-Loire, notamment, par exemple.
Alors, en Eure-et-Loire, je n'ai pas de chiffres pour l'Eure-et-Loire. Vous savez quand même qu'il y a deux hôpitaux en Eure-et-Loire, Dreux et Chartres, qui peuvent effectuer des prélèvements.
Hein. D'accord.
Par contre, la greffe ne se fait pas au niveau des hôpitaux de Chartres et de Dreux. Ouais. Elle se fait dans des hôpitaux universitaires, dans des CHU. Nous, on dépend de Tours. Et moi-même, j'ai été greffé à Tours.
Ouais. Alors, évidemment, pour faire en sorte que les gens acceptent de donner leurs organes, vous êtes obligé, non pas de faire du lobbying, mais de l'info. Donc, vous allez dire dans les collèges, dans les lycées, pour porter la bonne parole.
Oui, voilà, tout à fait. Porter la bonne parole, vous savez ce que ça veut dire à la radio Grand Ciel, mais c'est un petit peu ça. Hein. Et donc, moi, si vous voulez, quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais tellement content d'avoir été sauvé. La première chose que j'ai dit, il faut que je rencontre une association où je vais pouvoir m'investir pour parler du don d'organes. Et il se trouve qu'à Chartres, monsieur et madame Sarri, qui sont bien connus sur l'Eure-et-Loire, madame Sarri était directrice du centre de transfusion sanguine à Chartres, était président et secrétaire de cette association. Monsieur Sarri, légitimement, voulait faire valoir ses droits à la retraite. Ça faisait 30 ans qu'il était à la tête de cette association. Et quand il m'a vu arriver, je pense qu'il a eu une arrière-idée en disant « Je pense que celui-ci pourrait peut-être me succéder. » Et c'est ce qui s'est passé. Donc depuis juin 2018, je suis le nouveau président de cette association. Alors ADOT, ça veut dire Association pour le don d'organes, de tissus et de moelle osseuse.
Comment on fait si on veut donner ses organes ?
Alors là, on va reprendre ce que dit la loi dans le domaine du don d'organes. La loi dit qu'on est tous donneurs présumés, sous consentement présumé. C'est-à-dire que une personne qui ne s'est pas exprimée, normalement, est donneur. Mais c'est un petit peu plus compliqué que cela. Quand une personne ne s'est pas exprimée, elle est donneur. Si par contre, elle est contre le don d'organes, il faut savoir qu'en France, il y a quand même actuellement 30% de personnes qui refusent de donner leurs organes, eh bien, elle s'inscrit sur le registre national des refus. Et ça, c'est la nouveauté de la loi depuis le 1er janvier 2017. Donc je suis contre, je m'inscris sur le registre national. Je suis pour, eh bien, je le dis à mes proches. Hein, ça, c'est vraiment le point essentiel.
Il faut quand même le dire à ses proches.
Il faut le dire à ses proches.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un arrive en mort encéphalique à l'hôpital, le chirurgien, la première chose qu'il va faire, pour savoir s'il peut ou pas prélever des organes, il va consulter ce registre national des refus. Si vous n'êtes pas sur le registre national des refus, il va contacter les proches en leur demandant « Est-ce que vous connaissez la position de la personne décédée par rapport au don d'organes ?» On ne va pas demander si la famille est d'accord, on va déjà essayer de savoir si la personne s'était exprimée de son vivant sur le don d'organes. Et si la personne ne s'était pas exprimée, là après c'est la famille qui prend la décision.
Ah, c'est la famille qui prend la décision.
Enfin, les proches. Enfin, c'est souvent la famille. Et donc, en cas d'accord, bon, il n'y a pas de problème. Mais si dans la famille, il y a le pour et le contre, eh bien, le chirurgien ne fera pas le prélèvement.
D'accord. Mais en gros, aujourd'hui, il y a peu d'appréhension. Il y a moins d'appréhension qu'autrefois, j'imagine.
Oui, je pense que le sujet, ça a été un sujet tabou très longtemps. Parce qu'évidemment, on aborde la mort. Et la mort, c'est pas simple d'en parler. Mais pour faire des conférences quand même très régulièrement sur le département, notamment chez les jeunes sont d'une attention lors de nos interventions qui fait plaisir à voir. Ça veut pas dire qu'ils se sentent concernés parce que c'est...
Ils sont jeunes,
ça n'arrive qu'aux autres.
En tout cas, il y a une petite graine qui n'attend
que...
Tout à fait.
Et c'est d'ailleurs assez édifiant de voir l'ambiance dans ces conférences. Les jeunes sont vraiment très, très à l'écoute. Hein. Et alors, on les provoque aussi un petit peu par le fameux accident de scooter. Hein. C'est vraiment la cible. Et là, je dois dire que là, ça fait réfléchir quand même un petit peu plus.
Il nous reste une deux minutes. Vous serez présent le 8 mars prochain pour le semi-marathon de la SPTT au stade des Grands Prés.
Voilà.
Qu'est-ce que vous ferez? Donc,
alors, le rôle de la DOT, en fait, c'est d'informer et de sensibiliser, faire connaître la loi. Et donc, c'est simplement ça. On n'a rien à vendre, évidemment. On fait de la sensibilisation et de l'information.
Ouais. Et puis, au mois de juin, ce sera la journée des dons d'organes.
Voilà.
Donc, vous serez là aussi en...
La journée nationale du don d'organes. Alors, on sera présent dans les hôpitaux sur Chartres avec les équipes de coordination du prélèvement d'organes. Et sur, comme l'an dernier, on sera sur la place Marceau pour aller vers le public et sensibiliser sur le don d'organes.
Ouais.
Et nous serons porteurs d'un ruban vert. C'est le nouveau signe du don d'organes.
Celui qui orne le revers de votre veste.
Voilà, il y a le ruban rouge, le ruban rose, le ruban bleu, et depuis l'année dernière, nous avons notre ruban qui fait foi. Le ruban vert, c'est tous donneurs, tous receveurs. Il faut savoir que, et donc tous concernés, il faut savoir qu'on a plus de chances d'être receveur que donneur. Donc voilà.
Merci beaucoup Didier Lagrange pour toute information sur le don d'organes. Donnez vos organes, dites à vos proches que vous acceptez. www.france-adot.org.
Et localement, France Adot 28, et là vous avez tous les éléments.
Merci beaucoup Didier Lagrange.
C'est moi qui vous remercie.
Et voilà, fin de cette édition chartraine de l'émission Ensemble, l'émission mensuelle de Radio Grand-Ciel, qui vous familiarise avec le monde associatif eurélien. Je vous retrouve donc dans 4 semaines. D'ici là, restez fidèles au programme de Radio Grand-Ciel, la radio qui, je vous le rappelle, rapproche les hommes. Allez, on écoute Maxime Le Forestier pour se quitter comme un arbre dans la ville.
Comme un arbre dans la ville. Je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville. J'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débats, mais mes branches volent bas. Des autos qui fument entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison, et mes racines on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville. Béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Des parkings d'honneur posthume entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, ami. Après ma mort, barricade de mon corps.